BW. Vue d'Allemagne.
C'est une première devant un tribunal allemand. Un ancien agent de la Stasi, la police politique de l'ancienne Allemagne de l'Est communiste, reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison. On vous explique cela en détail. Et puis elles sont employées dans une grande chaîne d'hôtels du pays. Des femmes, souvent d'origine africaine, sont en grève depuis près de 2 mois en France, demandant des meilleures conditions de travail et des salaires décents. Ce sera notre grand reportage de la semaine. On sera avec elles en seconde partie de ce magazine. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Guten Tag. Bonjour à toutes et à tous. Il se cache le visage avec un porte-document, mais de côté, on aperçoit ses cheveux blancs, signe de vieillesse. Ce lundi 14 octobre 2024, Martin Naumann, 80 ans, est devant un tribunal de Berlin. On lui annonce le verdict. Il est reconnu coupable de meurtre perpétré il y a 50 ans, en 1974. Il écope de 10 ans de prison. Cet ancien agent de la Stasi, la police politique de l'ancienne Allemagne de l'Est communiste, devient le premier agent de l'époque à être reconnu coupable de meurtre devant la justice. Un jugement inédit donc, avec un procès débuté en mars qui a même été enregistré en raison de sa portée historique. DW. Derrière cette histoire, une comme des dizaines d'autres à l'époque, car on estime que 140 personnes sont mortes en tentant de fuir la RDA et de passer le mur de Berlin entre 1961 et 1989. On est en mars 1974 pour l'affaire qui nous intéresse. Czesław Kukuczka, un Polonais de 38 ans, se rend à l'ambassade de son pays à Berlin-Est. Il veut une autorisation pour passer à l'Ouest. Pour l'obtenir, il fait croire aux fonctionnaires qu'il a une bombe sur lui. La police secrète est-allemande, la Stasi, lui dit donc que sa demande est acceptée. Mais au moment de passer à l'ouest, Czesław Kukuczka est froidement abattu d'une balle dans le dos par un agent de la Stasi, Martin Naumann, condamné donc 50 ans après aujourd'hui. Il n'a pas agi par motif personnel, mais a exécuté sans pitié un acte planifié par la Stasi, a justifié le juge.
DW.
On le disait, il s'agit de la première condamnation pour meurtre d'un ex-agent de la Stasi, alors même qu'on parlait, je le disais, de quelques 140 morts rien qu'à Berlin du temps de la RDA. Les associations de victimes parlent même d'au moins 2000 morts politiques dans toute la RDA, l'Allemagne de l'Est. Mais si dans les années 90, de nombreuses poursuites avaient été lancées après la chute de la RDA, donc, elles ont souvent été abandonnées ou ont débouché jusqu'à présent sur des peines légères, voire des acquittements, faute de preuves, bien souvent. Dieter Dombrowski est le président de l'Union des associations de victimes du régime communiste.
L'unification allemande a été pensée à l'ouest avec la volonté de ne pas froisser les gens. On voulait la paix, pas de remous, et la justice allemande n'a pas fourni un gros travail. On a travaillé avec parcimonie parce qu'on ne voulait pas être soupçonné de faire de la justice politique. Et on s'est contenté d'inculper quelques personnes du parti et de la direction de l'État, comme Erich Honecker ou le chef du ministère de la Sécurité d'État, Erich Milke. C'était des procès symboliques, les crimes les plus graves, on ne s'en est même pas occupé.
Que ce jugement ait eu lieu, désormais la preuve qu'il est possible d'élucider les crimes les plus graves de la Stasi, réagit encore Dieter Dombrowski aujourd'hui.
Il y a encore beaucoup de cas non traités, mais comme dans celui dont on parle ici, l'enquête n'a démarré que parce que les autorités polonaises ont fait pression. Avant cela, le parquet de Berlin avait complètement échoué. Il avait déjà classé l'affaire. Par la suite, le jugement n'a eu lieu que parce que le tribunal de grande instance de Berlin a réentrepris des recherches, entre autres dans les archives fédérales, les documents de la Stasi. Sans l'étude de ces dossiers, l'affaire n'aurait pas été résolue. Mais si la justice a complètement échoué, ce n'est pas par malveillance, mais souvent par ignorance, parce qu'il n'est justement pas habituel en Allemagne que l'État fasse tuer des personnes.
Vous écoutez la DW.
Alors, ces archives de la Stasi qu'évoquait Dieter Dombrowski ont joué un rôle déterminant. Le procès a été rendu possible par l'apparition de nouvelles informations trouvées par deux historiens allemands et polonais dans ces archives, justement en 2016. Et pendant le procès, la professeure docteur Daniela Münkel a aussi été appelée comme experte à la barre. Elle dirige le département recherche aux archives de la Stasi.
Nous avons bien sûr encore beaucoup de choses à raconter. Nous avons réussi, même pendant le procès, à mettre à la disposition du tribunal d'autres documents. Et le fait que nous ayons pu le faire a certainement beaucoup contribué au jugement. Et il est évident que des choses dont nous ne savons peut-être rien aujourd'hui apparaîtront encore dans les archives de la Stasi.
Die Hinterlassenschaft der DDR-Staatssicherheit hier in unserem Archiv sind 111 Kilometer.
L'héritage de la Stasi, les archives, cela représente 111 kilomètres de dossiers. C'est une quantité inimaginable de dossiers qu'ils ont laissés derrière eux. Et à la chute de la RDA en 1989, la Stasi avait en plus détruit elle-même de nombreux documents. C'était donc encore plus. Donc c'est vraiment un très, très gros stock.
Des archives auxquelles les anciens citoyens de la RDA peuvent aujourd'hui accéder, mais aussi les historiens, les journalistes ou la justice. Il n'empêche, 35 ans après la chute du mur de Berlin, les perspectives d'autres procès pour meurtre et condamnation d'anciens agents de la Stasi s'éloignent. Vue d'Allemagne, deuxième partie, et on part en France, où c'est une grève qui passe assez inaperçue là-bas, mais qui dure depuis près de 2 mois. Celle de travailleuses, des femmes de chambre d'un grand hôtel basé à Suresnes, près de Paris. Elles sont en grève depuis le 19 août dernier et demandent des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Une grève dans le secteur qui n'est pas la première en France ces dernières années. Ces employés, souvent d'origine immigrée, demandent aussi du respect et de la reconnaissance. C'est un reportage de Nadir Djenad.
Il faut payer. Augmenter les salaires.
Munis de banderoles, de mégaphones et d'une sono, des employés de l'hôtel Première Classe et Campanile de Suresnes, en région parisienne, font entendre leur voix. Ce sont 12 femmes de chambre d'origine africaine qui crient leur colère à la direction de l'établissement. Elle demande surtout des hausses de salaire. Dans cet hôtel, une femme de chambre gagne le salaire minimum à temps plein, soit 1600 euros. C'est insuffisant, selon Kanouté Bintou, âgée de 46 ans. Elle travaille dans l'établissement depuis 2003.
Je suis mariée, j'ai des enfants, le salaire, ça, pour moi, c'est un peu petit.
Kamara Aissata est la doyenne des femmes de ménage de cet hôtel. Âgée de 50 ans, elle exerce ici depuis 2002.
On a besoin d'augmentation de salaire. On a besoin de primes exceptionnelles pour le pouvoir d'achat. Il y en a marre de la
galère. L'autre revendication principale concerne les conditions de travail, jugées très difficiles. Âgée de 36 ans, Tukara Kandé est première femme de chambre et travaille dans cet hôtel depuis 2013. Elle est la porte-parole du mouvement et représentante du syndicat CGT.
Il y a des jours, ça arrive qu'on fait beaucoup de chambres. Il y en a, ils peuvent faire, par exemple, 20 et quelques. Ça peut aller jusqu'à 25. Pour faire les lits, là, c'est pas possible du tout pour nous parce que c'est trop dur. Ils sont trop lourds, les matelas. C'est pas facile parce que nous, on travaille toujours avec les housses. Il y a 3 formes de chambres qui sont actuellement en arrêt maladie, plus de 2 ans, 3 ans et 4 ans. Tout ça, c'est des conditions de travail, c'est des problèmes de genoux, des problèmes de dos.
Contactez la direction du groupe Louvre Hôtel, propriétaire des hôtels Première Classe et Campanile, dit avoir, je cite, toujours été soucieuse d'assurer à ses collaborateurs des conditions de rémunération avantageuses, affirmant qu'en 2022, des augmentations de salaire de l'ordre de 8% en moyenne, soit plus de 150 euros par mois, pour les personnels non cadres, ont été accordés. Pas de quoi convaincre les grévistes qui poursuivent leur mobilisation.
Oh, les, oh,
Ce n'est pas le premier mouvement de grève de ce genre. Pendant près de deux ans, de 2019 à 2021, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, les Batignolles à Paris, ont fait grève pour dénoncer leurs conditions de travail et les mauvais traitements. Elles obtiennent satisfaction grâce à la conclusion d'un accord qui prévoit notamment des revalorisations salariales de 250 à 500 euros. Cette lutte est devenue un symbole du combat des travailleuses dites invisibles, comme l'indique l'une des porte-paroles de ce mouvement, Rachel Keke.
Le métier que nous faisons dans ces grands hôtels, c'est un métier qui est très invisible. Et un travail qui n'est pas visible, il y a plus de maltraitance et plus de souffrance à l'intérieur. C'est parce qu'on est des immigrés qu'on nous traite comme ça, en fait. Sortir du silence, c'est très important parce que ces métiers que nous faisons sont les métiers qui détruisent le corps. Donc si tu dénonces pas, tu ne dis pas stop, qui va le faire à la place ?
Ce qui revient souvent dans les mobilisations, c'est la question du salaire. Mais pas seulement. Guy Groux, directeur de recherche au CEVIPOF, le centre d'études de la vie politique française, spécialiste des mouvements sociaux et des syndicats, observe cela depuis plusieurs années.
Cette reconnaissance, bien sûr, elle passe par le salaire. Mais elle ne passe pas que par cela. Cette reconnaissance, qui implique bien sûr ou qui corrèle la notion de dignité, est devenue extrêmement importante. Alors la CGT, incontestablement, elle avait évoqué, notamment au niveau des conflits ouvriers, les derniers conflits dans l'automobile, la question de la dignité, en disant qu'ils ne demandent pas simplement à être mieux payés, ils demandent aussi à être reconnus par rapport à ce qu'ils font dans le travail et comme être humain. Dire l'humain, c'est évidemment dire la dignité.
Selon Guy Groux, ces femmes sont d'autant plus opprimées et exploitées qu'elles sont vulnérables du fait de leur origine étrangère, leur faible niveau d'éducation et de qualification. Et cela s'ajoute une autre peur insidieuse, explique Tiziri Candy, animatrice syndicale et juriste au syndicat CNT Solidarité.
Des salariés qui sont en France depuis 10, 15, 20 ans, maintenant pour renouveler leur titre de séjour, elles doivent prendre des rendez-vous très très tôt, tout se passe par internet, etc. Donc il y a vraiment des difficultés. Et comme les titres de séjour sont souvent lié au travail, bah en fait quand tu perds ton travail, tu perds ton titre de séjour et inversement. Et les patrons le savent très bien et c'est d'ailleurs comme ça en fait que se passe cette exploitation.
Les femmes de chambre de l'hôtel de Suresnes entendent bien mener leur combat jusqu'à ce que leurs revendications soient acceptées. Leur modèle est Rachel Keke que vous entendiez un peu plus tôt. Depuis son mouvement de grève avec ses collègues entre 2019 et 2021, elle est devenue députée du parti de gauche La France Insoumise en 2022. Première femme de chambre à siéger à l'Assemblée nationale. Elle encourage aujourd'hui ces femmes à prendre leur destin en main.
C'est pas parce que tu fais le ménage que tu ne peux pas faire de la politique. Il faut faire de la politique, il faut s'occuper de la politique, qu'on décide de notre vie.
Solidarité !
Nadir Djenad à Paris pour la Deutsche Welle.
Photo de cette grève à retrouver sur notre site internet et l'application DAW. C'est là que vous retrouvez aussi tous les numéros de Vue d'Allemagne. Ce Dan Le Touzé aussi, qui reprendra justement le micro, ce micro, la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite à tous et à tous une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Tchuss!